Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que moi je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or, vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pourvu que vous le fassiez. Ce n'est pas de vous tous que je le dis. Moi, je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que soit accomplie l'écriture. Celui qui mange mon pain a levé son talon contre moi. Dès maintenant, je vous le dis avant que la chose arrive, pour que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis, qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. »
Dans la mort d'une personne, il y a quelque chose d'irrationnel, d'absurde, peut-être même de révoltant. C'est le cas pour n'importe quelle mort, mais c'est particulièrement le cas pour une mort qui a été provoquée intentionnellement. On a vu ces derniers jours avec des attentats terroristes, Charlie Hebdo, Montrouge, Porte de Vincennes. Et on a de la peine à comprendre comment des personnes peuvent arriver à un tel niveau de violence. Dans le même temps, c'est intéressant, en écoutant les médias, tout le monde se pose la question des leçons à retirer de ce qui s'est passé. Dans quelle mesure est-ce qu'on aurait pu prévenir de tels attentats? Est-ce qu'on va pouvoir les prévenir dans l'avenir? Qu'est-ce que ça signifie maintenant quand on pense à la cohésion sociale? Quelles leçons est-ce qu'on tire par rapport à la liberté d'expression? On essaie de retirer des leçons, finalement, de ce qui s'est passé. En relatant les circonstances de cette dernière soirée de Jésus avec ses disciples, Jean nous invite à réfléchir au sens de ce qui se passe et de ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à la lecture, mais il y a des questions de compréhension, d'incompréhension, en particulier avec Pierre, qui ne comprend pas pourquoi Jésus fait ce qu'il fait. Et Jésus qui relève cette incompréhension et qui lui dit qu'il comprendra par la suite. Est-ce que ce que Jésus fait a du sens? Est-ce qu'il va se passer ensuite sa mort? Est-ce que ça a du sens? Et là, on va tout simplement voir, par les remarques de Jésus, par les questions qu'il pose, qu'il y a bel et bien du sens. Et Jésus veut mener ses disciples à la fois plus loin dans la réflexion et dans l'application, intellectuellement, pratiquement, il veut les mener plus loin. Et si Jean met toutes ces choses par écrit, c'est probablement parce qu'il veut nous mener plus loin, à la fois dans notre compréhension et dans l'application de certaines vérités. Et les deux questions qu'on va se poser sont les suivantes. Dans quel sens est-ce que Jésus avance? Et dans quel sens est-ce qu'il veut nous mener? Au niveau du moment, c'est vraisemblablement le repas de la Pâque que Jésus est en train de célébrer et qui correspond à ce que relatent les autres évangiles. Et il y a quelques années, un film est sorti qui revient sur des circonstances qui se sont passées en 1996, des hommes et des dieux. Et dans ce film, à un moment donné, on fait un parallèle entre un repas qu'ils ont pris et le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Il s'agit de 7 moines trappistes dans le monastère de Tibirine en Algérie qui sont par la suite enlevés, exécutés donc, dans cette année. Et ceux qui se souviennent de cette fameuse scène se souviennent peut-être de la menace qui pesait. Les terroristes ont menacé et ils ont voté, décidé de rester par rapport à la population environnante plutôt que de partir pour sauver leur vie. Alors l'histoire est basée sur des faits réels, ça s'est bien passé, ils sont bien morts dans ces circonstances-là. Mais la soirée en question a probablement été inventée pour le film. Il y a ce parallèle qui est fait avec ce repas. Dans le film, on voit Michael Lonsdale dans le rôle du frère Luke qui amène 2 bouteilles de vin rouge, qui met de la musique, Le lac des cygnes de Tchaïkovski. Et au départ, on voit les sourires, on voit la complicité, la joie d'être ensemble. Et tout à coup, l'air devient plus sombre, les regards se crispent, ils sont tristes. La menace est pesante et ce sera là leur dernier repas dans le monastère. Pour Jésus et ses disciples, ce repas de la Pâque, ça devait être un moment de joie. Une magnifique fête. Et pourtant, il y a un air triste qui plane, une incertitude. Dans quel sens est-ce que Jésus avance ? Jean veut nous dire dès le départ du récit qu'il y a du sens à ce qui se passe. Et comme il l'a fait au tout début de son évangile, il veut nous donner le plan large. Et on le voit dans les termes qu'il utilise. Quel est le plan large ? Prenez les premiers mots. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père. Déjà la Pâque, c'est cette grande célébration de la première Pâque qui avait eu lieu des siècles plus tôt, au moment de l'Exode, où le peuple hébreu avait pris des agneaux pour célébrer dans chaque foyer un sacrifice qui allait rappeler la nécessité d'un coup pour être protégé et sorti de l'esclavage. L'expression « l'heure était venue », Jean, il l'a déjà utilisé à plusieurs reprises dans son évangile, mais à chaque fois, Jésus dit que c'est par la suite que cette heure viendra. Ici, l'heure, elle est venue. Jean indique ensuite que pour Jésus, il s'agit de quitter le monde qui lui est hostile pour retourner vers le Père qui l'a envoyé. Il le dit avec d'autres mots, verset 3, il est sorti de Dieu et il s'en va vers Dieu. Un commentateur de cet évangile, Raymond Brown, utilise l'image d'un pendule, le mouvement d'une pendule, comme l'élévation que Jésus connaissait avec le Père avant que le monde soit. Et le pendule descend, la pendule descend, pour atteindre son niveau le plus bas et pour ensuite remonter pour être à nouveau avec le Père. Le mouvement, on le retrouve à plusieurs reprises dans cet évangile de Jean, mais on le retrouve dans ces quelques lignes déjà. Et ce soir-là, Jésus va physiquement descendre au plus bas. Il va laver les pieds de ses disciples. Mais aussi dans la situation qu'il vit, c'est au plus bas. L'un des siens, l'un de ses disciples, va le trahir. Le complot est en train de prendre forme. Pourquoi cette trajectoire ? Quelle est la force qui l'entraîne dans ce mouvement-là ? Mais Jean là aussi nous le donne. Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Autrement dit, il les a aimés jusqu'ici, il va les aimer jusqu'au bout. Et pour mieux comprendre ce que ça signifie, je vous invite tout simplement à rentrer dans le récit. Jésus et les disciples montent dans une chambre. La description est faite d'une chambre spacieuse dans les autres évangiles. Ils sont probablement montés par un escalier. À l'époque, si dans les déplacements on pouvait se préserver au niveau des habits, du reste du corps, les pieds étaient mis à rude épreuve. Porter des sandales sur des routes de terre, imaginez la saleté qui s'accumule. Et au moment du repas, Vous vous installez les uns à côté des autres, à même le sol, avec ses pieds, les pieds des uns et des autres. Et c'était une pratique courante d'avoir un esclave dans la maisonnée qui allait laver les pieds des hôtes avant un repas. Ici, on peut imaginer que les disciples sont rentrés dans la chambre haute, ont peut-être regardé pour voir s'il y avait un esclave. Il n'y en avait pas. Ils se sont donc installés autour de la table. Ils n'ont probablement même pas eu l'idée de se laver les pieds les uns aux autres. Entre personnes de même condition sociale, ça ne se faisait pas. C'était un esclave. Et même, selon les rabbins, ça devait être un esclave non-juif qui devait faire cela. Tout le monde s'installe autour de la table. Et là, c'est la surprise, le choc. Alors que le repas a déjà commencé, Jésus se lève. Il enlève son vêtement. Il prend un linge qu'il met comme un tablier. Il a maintenant l'apparence d'un esclave. Il va chercher de l'eau, le verse dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples les uns après les autres. Si on peut imaginer des conversations alors qu'ils vont à la chambre haute ou même au début du repas, ça a dû être le silence à ce moment-là. Lorsqu'on voit Jésus qui vient laver les pieds, vous imaginez Jésus qui vient à vos pieds, qui mouille vos pieds, qui se met à les frotter, les laver. Et comme souvent, c'est Pierre qui prend la parole, qui s'indigne au moment où Jésus veut le faire pour lui et qui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. » Pour Pierre, ça n'a pas de sens. Un esclave, d'accord, mais pas le Seigneur. Il ne peut pas faire ça. Est-ce que Jésus va réaliser que pour Pierre, c'est trop? Il a trop d'amour pour lui pour pouvoir accepter que Jésus lui lave les pieds. Est-ce que Jésus va renoncer? Et il lui fait comprendre qu'il a besoin de le faire. La compréhension de Pierre, elle se confirme dans une deuxième remarque. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Là encore, est-ce que Jésus cède? Jésus bouscule une fois encore en disant, si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Et là, on peut imaginer Pierre qui a tous les neurones qui fonctionnent et qui réfléchit déjà à la prochaine chose qu'il va dire. Des fois, on se demande s'il réfléchit beaucoup, mais il dit... Si en fait je ne suis plus associé à lui, s'il ne me lave pas les pieds, alors qu'il me lave pas seulement les pieds, mais la tête, les mains aussi. Et Jésus répond encore par une parole qui surprend. Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Il a le don de surprendre, hein, Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Si on rassemble les éléments, on réalise que ce lavement des pieds est un symbole important. Mais le symbole d'une œuvre plus grande. Alors c'est quoi cette œuvre plus grande? Ce symbole, il renvoie à quoi? Mais en tout cas, deux choses. Dans ce qui se passe ici, on voit en tout cas deux choses. Naturellement, ce lavement des pieds, c'est le symbole d'une purification plus grande. Une purification plus grande. Et on le retrouve ailleurs dans le Nouveau Testament, quand Jésus est décrit dans son œuvre de mort à la croix et de résurrection. Il y a l'idée que par cela, il va opérer une purification pour ceux qui croient en lui. Ils vont pouvoir être lavés de tout ce qui les rend corrompus et impurs à l'intérieur. Ce lavement est symbole d'une purification plus grande. Mais qu'est-ce qu'il symbolise encore? Eh bien, Jean nous l'a dit au départ du passage. Jésus les aima jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Comment témoigner de l'amour à quelqu'un? Si vous pensez à quelqu'un que vous aimez, comment est-ce que vous pouvez lui témoigner de l'amour? au-delà des cadeaux que vous pourriez faire, que vous avez peut-être fait à Noël, comment est-ce que vous pourriez lui témoigner de l'amour ? Ben, ça sera peut-être être présent avec lui dans les moments difficiles. Ça sera peut-être être présent avec elle dans les moments difficiles. Ça sera être prêt à donner ce dont cette personne a besoin, lorsqu'elle en a besoin, en prendre soin. Mais dans un sens, c'est tout ce que Jésus a déjà fait pour ses disciples pendant les quelques années qu'il a passées avec eux. Ça se résume bien dans la première partie de l'expression de Jésus, ou de Jean plutôt, qui met par écrit, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde. Maintenant, il va les aimer jusqu'au bout. Ça va aller plus loin. Qu'est-ce qu'il entend par jusqu'au bout ? Qu'est-ce que ça signifie ? Plusieurs choses probablement. Jusqu'au bout, ça veut dire par exemple que Jésus va les aimer jusqu'à être prêt à mourir pour eux. Jusqu'au bout, ça veut dire par exemple qu'il est prêt à les aimer et que cet amour ira jusque dans l'éternité, au-delà de sa mort. Jusqu'au bout, ça signifie aussi que même lorsqu'ils feront face à leur propre mort et pourront être en sécurité en sachant qu'il les a aimés et qu'il les aime là. Ce lavement des pieds, c'est donc le symbole d'une purification, mais c'est aussi le symbole d'un amour qui est allé jusqu'au bout. Et en quoi est-ce que ça a du sens ? Grâce à Luc, on sait qu'un des sujets de conversation, et j'imagine que ça devait être dans la première partie du repas, c'était un débat. Quelle est la question du débat ? Qui est le plus grand des disciples ? Vous imaginez le contraste entre le geste de Jésus et la question des disciples : qui est le plus grand ? Les disciples, ils n'ont probablement même pas eu l'idée de laver les pieds de Jésus. Ça ne leur a même pas traversé l'esprit. Ce qui est dans leur esprit, c'est qui est le plus grand parmi nous. Jésus, par contre, dans son esprit, il a sa mort qui vient. Et avec ça à l'esprit, il arrive pourtant à se focaliser sur eux, à les aimer jusqu'au bout, à leur laver les pieds à chacun. Quel contraste ! De quoi est-ce qu'ils ont besoin ? Eh bien, précisément, ils ont besoin d'une purification qui va aller à l'intérieur, qui va les laver de cet égocentrisme qui nous caractérise tous, de ce désir d'être le premier. Ils auront besoin d'un amour qui va aller tellement à contre-courant qu'il va les bousculer, les interpeller. Et c'est justement ce qu'il fait pour eux, en les aimant jusqu'au bout. Et est-ce que ce n'est pas le cas pour nous ? Pensez à ces moments où vous avez l'occasion de vous arrêter et vous réfléchissez à votre avenir. Comment est-ce que vous y réfléchissez ? Comment est-ce que j'y réfléchis ? Est-ce que vos pensées ne se tournent pas vers les honneurs que vous pourriez avoir ? Est-ce que vos pensées ne se tournent pas vers la réputation que vous pourriez avoir dans 10, 15 ans ? Est-ce que ça ne tourne pas vers la position que vous pourriez avoir ? Vers les gens qui vont parler de vous, un tel qui va parler de vous ? Vers vos succès ? Et si je vous pose ces questions, ce n'est pas que je veux vous culpabiliser. Si j'ai pu les mettre par écrit, c'est parce qu'elles traversent mon esprit. C'est parce qu'elles sont malheureusement présentes dans un esprit tordu comme celui des disciples. D'où notre besoin d'être purifiés en profondeur, purifié de notre idolâtrie qui nous colle à la peau comme une saleté tenace. On a besoin d'être interpellé, troublé par un amour qui va complètement à contre-courant, comme celui de Jésus. On en a besoin. Et la question qu'on doit se poser ensuite, c'est dans quel sens est-ce qu'il veut nous mener ? Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus poursuit en disant « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. » En faisant ce qu'il a fait, Jésus se présente comme un exemple qu'ils doivent eux-mêmes reproduire. Alors certains l'ont pris de manière littérale en disant « il faut reproduire ce lavement des pieds les uns envers les autres ». Et si c'est vrai qu'il y a probablement quelque chose qu'on en retire dans le fait de réaliser un peu ce qui s'est passé ce soir-là, donner vie à ce qui s'est passé, probablement autre chose qu'un exemple littéral à reproduire, c'est plutôt un modèle qui va prendre différentes formes selon les personnes. Les apôtres vont faire ce que Jésus a fait pour eux de différentes façons les uns pour les autres. Et si on est croyant ce soir, on peut naturellement se demander à quoi est-ce que ça va ressembler pour chacun d'entre nous ? À quoi est-ce que ça va ressembler ? Où est-ce que Jésus va nous mener ? Il y a un peu plus de 4 ans, j'ai assisté à un rassemblement de jeunesse à Genève. Et il y avait deux invités, Alex et Brett Harris, deux jumeaux, qui à l'époque avaient 20 ans. Ils avaient commencé un mouvement alors qu'ils étaient très jeunes, ils avaient 16 ans. Ils sont l'auteur d'un livre qui s'appelle en français « Génération Challenge ». En anglais, le titre signifie littéralement « Faites des choses difficiles ». Et par ce livre, par cette conférence, en gros, ils invitaient les adolescents à ne pas accepter d'être cloisonnés dans des attentes réductionnistes. Comme si être ado, c'est être bête, mou, et tout juste bon à passer du temps devant la télévision ou les jeux de vidéo. Et dans un blog francophone, un article est sorti en novembre dernier. L'idée c'était de voir 5 ans plus tard ce qu'ils étaient devenus. Deux jumeaux avec les mêmes aspirations à servir Dieu, à relever des défis, mais avec des trajectoires bien différentes. Alex, sur la photo, il est à droite, est marié, il a une petite fille, il termine ses études à Harvard et s'apprête à travailler pour la cour d'appel aux États-Unis, au Colorado. Brett, lui aussi est marié, mais sans enfant. Quelques mois après son mariage, sa femme découvre qu'elle est atteinte de la maladie de Lyme. Et pour lui, les défis consistent à quoi ? Au quotidien, prendre soin de sa femme, l'aider à monter les escaliers, la porter, cuisiner pour elle, l'emmener chez le médecin. Et il dit dans les moments les plus difficiles de la maladie, l'aider dans ses crises de panique lorsque l'infection bactérienne atteint son cerveau. Ça va être ça pour lui, à l'heure actuelle en tout cas, l'aimer. Prendre soin d'elle, une même aspiration à servir Dieu, un même désir de relever des défis, mais deux trajectoires bien différentes. Dans quel sens est-ce que Jésus veut vous mener ? Dans cet article, on lit quelque chose d'intéressant de la part de Brett, du frère de Brett plutôt, Alex, qui est à Harvard, et qui fait un constat intéressant. Les choses pour lesquelles les gens ne te louent pas ou qui ne suscitent pas l'admiration de la part de tes pairs sont plus difficiles, mais sont généralement les choses les plus importantes. Et un peu plus loin, en parlant de ces petites choses, entre guillemets, c'est incroyablement dur, c'est pas séduisant, mais ça glorifie Dieu. Et c'est exactement ce que mon frère Brett est en train de faire. Si naturellement on réfléchit, on aurait tendance, comme les disciples, à se poser la question « Suis-je le plus grand ?» Et il faut pas mal comprendre ce qu'on veut dire ici. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait une bonne chose d'aspirer à avoir une carrière où on veut avoir des ambitions importantes. C'était leur but finalement. D'utiliser les dons qu'ils ont reçus en étant conscients que Dieu les a donnés ces dons-là. D'avoir des ambitions pour Dieu, pour son royaume. Mais quelle va être l'attitude dans le cœur ? Quand je suis dans une position de responsabilité, dans quelle mesure est-ce que je le fais pour nourrir une certaine satisfaction d'être vu, d'être reconnu ? Ou dans quelle mesure est-ce que je le fais pour servir les autres ? Et la question, elle se pose pour moi actuellement. Dans quelle mesure est-ce que je vous parle ce soir? Est-ce que ce texte me le pose? Dans quelle mesure est-ce que je le fais pour me servir en vous utilisant pour trouver une satisfaction, un désir d'être reconnu, une approbation? Ou dans quelle mesure est-ce que c'est pour servir et pour votre bien? La question doit être posée. Et la question vous est posée à vous aussi dans votre travail. Dans quelle mesure est-ce que vous pouvez faire votre travail, non pas en utilisant les autres pour être approuvé, pour être vu, mais pour les servir, pour faire votre travail dans une attitude de comment est-ce que je vais l'aider lui, l'aider elle dans ce qu'elle a à faire, et aider le plus grand nombre. Et un test tout naturel, ça va être justement ces choses, ces petites choses. Ce n'est pas quand tout le monde nous regarde, c'est quand on est face aux toutes petites choses, ces services qui ne seront pas vus de tous les autres. Prendre soin d'une personne qui est isolée, être attentif à une personne qui est marginalisée, faire ce service dans l'église que personne ne voit pour les frères et sœurs, c'est là où on va pouvoir laver les pieds des disciples. Une tentation, en se posant ces questions, ce serait de dire, mais en fait, moi j'ai déjà fait l'expérience de cet amour. J'ai déjà fait l'expérience passée d'une relation avec Jésus. Et j'ai l'expérience d'avoir servi. Et on évacue ce genre de questions de fond dans ce qu'on fait maintenant. J'ai déjà un passé. Notre section, elle se termine avec l'allusion à Judas et sur ce qu'il est sur le point de faire. Quand on regarde la manière dont les gens parlent de Judas, c'est intéressant de voir qu'il y a deux extrêmes. Une extrême, c'est finalement de dire mais qu'il est le mal personnifié. Judas, c'est celui qui, en fait, est Satan personnifié, qui vient et qui s'oppose à Jésus et qui va le trahir. Mais en fait, quand on regarde Judas et sa trajectoire, on voit que c'est progressif. Dans l'évangile de Jean, on le voit, dans les autres aussi. Et même un Pierre, il peut s'entendre dire « Arrière de moi, Satan !» Parce qu'à ce moment-là, il joue le même jeu que Satan en voulant empêcher Jésus de passer par la souffrance. Autrement dit, Pierre, à certains moments, lui aussi, et nous aussi, à certains moments, on peut jouer son jeu. On ne peut pas diaboliser Judas. C'est le mal incarné. Une autre tendance, c'est vouloir innocenter Judas, finalement dire que, en fait, il était plein de bonnes intentions. On a même des personnes qui veulent justifier Judas en disant, mais en fait, il voulait lui sauver la vie. Ça ne colle pas, là encore, avec le témoignage des autres disciples. Alors, comment est-ce qu'on va le voir? C'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses, qui a vu les miracles de Jésus, qui a entendu son enseignement, qui a dû voir des choses magnifiques, remarquables. Mais c'est quelqu'un qui a aussi expérimenté quelque chose de remarquable. Il a participé à des guérisons, il a participé à des délivrances. Il a participé, comme tous les autres, à tout ça. Mais comme il est dit ici, cette purification, elle n'est pas allée jusqu'au plus profond, lui. Tous ne sont pas purs. Et cet amour, il n'a pas pénétré au plus profond. Il a montré par sa trahison que c'était abstrait et que cet amour, il était théorique. Et finalement, il a utilisé sa position comme disciple pour trahir Jésus. Il a utilisé Jésus pour ce qu'il voulait vraiment, l'argent. Il n'a pas servi comme Jésus l'a servi. Et c'est donc une invitation à nous poser la question, dans quelle mesure est-ce que nous avons compris notre besoin d'être purifiés dans nos pensées, dans notre manière de voir, une purification dont on voit encore l'importance aujourd'hui, sans s'appuyer sur des expériences passées, sur des choses qu'on aurait vécues dans le passé, Aujourd'hui, est-ce que je réalise combien j'ai besoin d'être purifié? Et l'autre question, est-ce qu'on a été interpellé? Est-ce qu'on est interpellé par l'amour de Jésus qui est allé jusqu'au bout et qui nous bouscule dans notre manière de vivre? Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te prions que tu nous accordes par ta grâce de voir la nécessité de cette purification en nous, de toutes nos pensées tordues. Nous te prions aussi que tu nous accordes d'être saisis par cet amour de Jésus qui est allé à contre-courant, qui nous bouscule, qui suscite l'incompréhension, et pourtant que nous avons à refléter. Et pour la gloire de ton nom, que cela soit possible. Amen.